Bonjour les enfants, c'est moi, Kiri. Vous ne pouvez pas me voir et pourtant je suis là. Vous savez, je suis presque aussi grand que vous. Je suis un lutin de la famille des lutins-conteurs. Les lutins font partie des êtres de la nature et nous sommes très nombreux dans la nature. Tout comme vous, nous aimons bien rire, chanter, danser et sauter. Notre vie est remplie de nombreuses aventures et nous avons beaucoup à faire. Autrement dit, nous avons des tas de choses à vous raconter. Voyons quelle histoire nous allons vous conter aujourd'hui.
Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Pincenez l'ours qui aimait tant le miel. Par une belle et chaude journée de mai, un grand ours à la fourrure hirsute se promenait dans les profondeurs de la forêt épaisse. Les hommes qui connaissaient sa présence en ces lieux avaient très peur. Comme il était grand et imposant et qu'il avait l'air de tout surveiller, les hommes l'appelaient Maître Pincenez. Bien souvent, Maître Pincenez flânait par oisiveté. Ses excursions à travers la forêt duraient longtemps car il explorait soigneusement la contrée. Maître Pincenez n'était jamais pressé car il n'avait pas la notion du temps. Ainsi, il flairait par-ci, par-là, et il s'arrêtait souvent. S'il croyait avoir vu quelque chose et voulait l'attraper, il pouvait alors courir très vite. Les choses essentielles lui échappaient rarement, car il avait, comme disaient les hommes, bon pied, bon œil. Ce jour-là, au cours de son excursion à travers la forêt profonde, il mangeait, comme à son habitude, une baie par-ci, une baie par-là, goûtait la verdure fraîche ainsi que les tendres buissons. Tout à coup, il s'arrêta et tira le nez en reniflant, comme s'il voulait dire « Je sens quelque chose !» Il se souvint que dans cette partie de la forêt vivaient des abeilles sauvages.
« Là où habitent tes abeilles sauvages, il y a du miel sauvage !»
pensa la visée renifleur. Chers enfants, les abeilles sauvages ne sont rien d'autre que des abeilles qui vivent librement en essaim, et celui que Maître Pincenez avait flairé se trouvait dans un arbre pas très haut. Les abeilles vivaient et produisaient leur miel dans un creux de l'arbre. Du miel, il y en avait là en abondance, et aucun homme ne venait le chercher pour le vendre. Maître Pincenez décida de se laisser guider par la savoureuse odeur et finalement découvrit la ruche. Les hommes disent que se réjouir d'avance, c'est la meilleure des joies. Maître Pincenez eut l'eau à la bouche rien qu'à l'idée du miel fin et doux. Mais les abeilles ne sont pas nées d'hier. Elles sont intelligentes et prudentes. Une des abeilles vit Maître Pincenez s'approcher et dit « Aïe, 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 Pincenez arrive! Il a certainement très envie de notre miel !» Tandis que l'ours s'approchait entre-temps, une image s'éveilla dans son monde de souvenirs. Il se revit l'année passée, aux prises avec les abeilles, car il s'était tout simplement servi en miel sans rien demander. Il se dit
« J'espère que les abeilles ont oublié que je leur avais pris beaucoup de miel et aussi que, par gourmandise, j'en avais mangé beaucoup trop. » Je m'en souviens très bien. Car j'ai eu une indigestion. Un soupir traversa le grand corps pesant. Bon, j'espère que les abeilles me donneront un peu de leur miel.
Lorsque Pincenez se fut approché de la ruche à environ 7 longueurs d'ours, il cria
« Bonjour les abeilles, comment va la production de miel? Tout se passe-t-il bien ?»
Les gardiennes, qui se tenaient à l'entrée de la ruche, répondirent à maître Pincenez « Oh oui, tout va pour le mieux, merci !» Pincenez demanda
« Est-ce que vous pourriez peut-être me donner un tout petit peu de votre miel ? Je l'aime beaucoup, et vous n'avez guère de demande par ici, n'est-ce pas ?»
Les gardiennes dirent alors, « Eh bien, seuls les elfes et les nains viennent chercher notre miel. Ils font de délicieuses gaufres au miel avec, pas seulement pour eux-mêmes, mais également pour tous les animaux qui aiment le miel. Avant de t'en offrir un pot, nous devons demander à notre reine. Attends un instant, s'il te plaît. »
« Je ne demande pas mieux, »
pensa maître Pincenez. La fraîche odeur de miel lui montait déjà aux narines. Plein d'espoir, il s'assit le dos contre un arbre. Tout à coup, il entendit crier « Hey, Pincenez, nous ne pouvons malheureusement rien te donner. Notre reine nous l'a interdit. »
Pincenez en fut très attristé et rétorqua « Voulez-vous donc tout garder pour vous seul ? Le miel ne se garde pas éternellement, et de plus, vous agissez contre la loi créatrice qui est de donner. Ne seriez-vous pas quelque peu avare ?»
demanda maître Pincenez.
« Ne voulez-vous pas partager ? Vous accumulez et produisez de plus en plus ? Vous allez bientôt étouffer dans votre miel. Je pense que même les elfes et les nains n'ont pas besoin d'une telle quantité. Ils seront malades avec tant de miel. Ils ne peuvent pas non plus manger des gaufres au miel tous les jours. »
En entendant cela, les abeilles délibérèrent pour décider de ce qu'il fallait faire. On entendit ceci. Tout à coup, une abeille lança « Je crois que j'ai trouvé la solution. » Elle invita Pincenez à attendre qu'elle revienne. À nouveau, Pincenez s'assit en attendant. Dans la ruche, le ton montait. Et Pincenez pensa
« Tout cela seulement parce qu'elles ne veulent pas me donner de miel. »
Un moment plus tard, les gardiennes furent de retour et crièrent « Hé, Pincenez, c'est d'accord. Il a fallu un peu de temps pour convaincre notre reine avec tes arguments. Finalement, elle a compris qu'il ne serait pas juste de tout garder pour nous-mêmes. Tu nous as éclairés, et maintenant, nous avons pris conscience de cela. » Selon la puissante loi créatrice, nous devrions être là les uns pour les autres de manière désintéressée. Celui qui a de quoi manger devrait partager avec celui qui a peu ou qui n'a rien. Nous devrions nous aider les uns les autres. Un jour ou l'autre, nous aurons besoin de ton aide. Nous pourrons sûrement compter sur toi.
« Mais bien sûr !»
Et Pincenez ravit qu'une abeille de garde lui offre un petit pot de miel. Pincenez s'installa aussitôt sur le sol de la forêt pour manger le miel et pensa «
Oh, que cela fait de bien après un hiver si rigoureux, de manger enfin du bon miel frais. Il plongea sa langue tout au fond du pot et se délecta de cette douceur. Bien qu'il fût très gourmand et si heureux de pouvoir se délecter de miel, il savait qu'il devait manger lentement et consciemment, et surtout sans excès. Il mit ainsi en pratique la grande loi de l'harmonie de l'esprit créateur. Les abeilles de garde lui donnèrent encore quelques petits pots de miel pour la route. Pinsley leur dit,
« Cette fois, je ferai attention à ne pas tout manger d'un coup, mais à bien répartir mes repas de miel. »
Il remercia très chaleureusement la reine des abeilles, ainsi que les gardiennes, et comme il était un peu fatigué,
il s'allongea pour faire une petite sieste.
Il repensa alors à ce qui venait de se passer. Il avait appris quelque chose.
Même si les événements ne se passent pas tout de suite comme on le souhaite, on ne devrait pas abandonner. On résout les problèmes dans le calme intérieur en prenant un peu de recul.
Il avait également appris à résoudre une difficulté harmonieusement.
On ne devrait pas, sans réfléchir, commencer à se battre, pensa-t-il. On devrait réfléchir beaucoup plus avant de parler, se dit-il encore.
Maître Pinsney était satisfait et se promit d'agir ainsi désormais.
Puis, il s'endormit
et rêva des dons de la création de Dieu. Chers enfants, c'était l'histoire de Pinsney, l'ours, qui aimait tant le miel.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je serai heureux de vous retrouver pour la suite. À bientôt. Votre Kiri, le lutin conteur. Thank you.
La famille du taureau tout amour, qui portait le joli nom « Sois confiant », vivait en pleine nature dans de magnifiques prairies fleuries. Dans la famille du taureau tout amour, les jeunes mâles aimaient beaucoup s'amuser ensemble, mais de temps en temps, ils réfléchissaient aussi au sens de leur vie. Ce jour-là, tout amour s'émerveillait une nouvelle fois devant la multitude des fleurs. Il les avait saluées en pensée et avançait lentement vers le tilleul majestueux. Tout amour était intérieurement à l'écoute de la vie et de la nature tout entière et ressentit un grand silence et une paix profonde. Dans cette contemplation, il lui parut tout à coup que les fleurs, les herbes et les arbres parlaient les uns aux autres, que les pierres émettaient des sensations et des sons très subtils, qu'elles s'exprimaient et, d'une certaine façon, s'adressaient à lui. Lorsqu'il retourna dans sa famille, il vit que plusieurs de ses amis et parents étaient venus leur rendre visite. En le voyant, ils lui demandèrent
« Comment vas-tu ? Qu'as-tu de nouveau à nous raconter ?»
Il ne vint alors à l'esprit de tout amour rien de mieux que de parler de sa nouvelle découverte, qu'il était persuadé que toute la nature parle, les fleurs, les herbes, les arbres ainsi que les pierres.
On ne peut pas dire que cela impressionna les autres qui, au contraire, se mirent à rire et à se moquer de lui. « Comment peut-on croire une chose pareille ?»
Alors, tout amour essaya de leur expliquer. « Nous aussi, nous avons notre langage. Pourquoi les autres créatures ne parleraient-elles pas entre elles ?» Les jeunes taureaux et quelques petits veaux, eux, le regardèrent avec curiosité. « Que veux-tu dire ?» Il leur répondit. « En tout cas, pour moi, les choses fonctionnent ainsi. Lorsque je vous aime bien, je vous comprends. Mais si je suis fâché contre vous, je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites, parce que la colère et mes pensées font trop de bruit et m'empêchent d'entendre quoi que ce soit d'autre. »
Son père s'indigna. « Mais qui m'a donné un fils pareil ? Les taureaux sont des taureaux. Ils doivent être courageux et combatifs, et non pas pacifiques ou aimants. » Je ne l'ai jamais été et mes fils doivent devenir comme moi. Un taureau est un taureau, un point, c'est tout. »
Taureau tout amour se retira pour réfléchir. Il était triste de constater que son père, mais aussi que la plupart de ses amis et des membres de sa famille, se détournaient un peu de lui maintenant. « C'est facile de se moquer des autres, surtout lorsqu'on est en nombre comme ça, » pensa-t-il. Mais faire la tête et le rendre là pareil n'arrangera rien et ne servira à rien ni à personne. Je veux apprendre à être tolérant et à respecter tous les autres autour de moi, même s'ils sont différents de moi.
Son père était bien malheureux de voir son propre fils ainsi, mais tout amour ne se laissa pas déconcerter pour autant.
Si vous voulez continuer à vous battre, libre à vous. Cela ne m'empêchera pas de vouloir faire autre chose. Si vous combattez ainsi, c'est parce que vous n'êtes pas véritablement heureux, » ajouta-t-il.
Tous les taureaux furent déconcertés, ne sachant pas quoi répondre.
Les jeunes taureaux s'approchèrent de tout amour, et le plus jeune de ses frères avait plein de questions à lui poser.
« Dis, tout amour, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux ?»
Tout amour lui répondit, « Je ne le sais pas encore tout à fait. » Je suis moi-même en train de tâtonner et de faire des expériences pour pouvoir ensuite vous en faire part. Ce que je sais, c'est que l'on se doit de respecter toutes les autres créatures. »
Tout à coup, une libellule se posa sur son large museau. Il était déjà prêt à l'éloigner en secouant la tête lorsqu'il entendit une petite voix qu'il avait bien l'impression de comprendre.
« Hey, tout amour, tu veux trouver le vrai bonheur, n'est-ce pas ?
Ce que tu ressens est juste. On ne devient heureux que lorsqu'on aime toute chose et que l'on s'efforce de rendre les autres heureux. Tu dois apprendre à aimer toutes les autres formes de vie, même celles qui ne t'aiment pas, comme par exemple les temps qui te piquent. Ce n'est pas leur dard que tu dois aimer, mais leur cœur. Ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut comprendre le langage de toutes les créatures. Ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut aimer et ce n'est que dans son cœur que l'on peut devenir véritablement heureux. »
Le taureau tout amour répondit « Mais comment pourrais-je aimer les temps qui me piquent ?
Ce n'est pas leur manière d'être qu'elles ont acquise dans ce monde rude, grossier et dur que tu dois aimer, mais leur cœur qu'elles ont reçu de l'esprit créateur. » Voilà qui interpella le taureau tout amour. un esprit créateur, qui est-ce ? C'est l'esprit qui est en tout ce que nous pouvons percevoir grâce à nos yeux et que nous pouvons toucher avec notre corps. Ce que tu vois, mon corps par exemple, est la forme matérielle, extérieure. Elle est l'enveloppe qui entoure ce qui est doux et subtil, ce que l'esprit créateur a conçu, notre être véritable, l'intérieur de nous-mêmes. Taureau tout amour resta là, interloqué et pensif. Les jeunes taureaux revenaient régulièrement auprès de tout amour, lui demandaient ce qu'il fallait faire pour devenir véritablement heureux. Mais cela n'était pas du goût des taureaux plus âgés, et pas non plus du père de la famille, sois confiant. Dans ses jeunes années, il avait été un vrai champion dans les arènes des hommes. Il en était très fier et savourait l'admiration que lui vouaient ses enfants. « Vous devez devenir des héros. C'est le but de votre vie, car un taureau est fait pour combattre. » C'est alors que son fils prit la parole. « Père, tu es revenu vivant de tes combats. Mais chacun des taureaux qui partent au combat n'en connaît pas l'issue. » Je trouve que de tels combats ne correspondent pas à ce que nous sommes. Ils ont été inventés par les hommes. Ce n'est pas un signe de force ou d'héroïsme, mais de cruauté. Et la cruauté est dirigée contre la vie. Les jeunes taureaux étaient troublés. Certains se décidèrent à suivre les pas de leur nouvel instructeur, le taureau tout amour, et commencèrent à apprendre le langage de la vie. D'autres persistèrent à vouloir devenir des héros et à se mesurer aux toreros. Peu de temps après, des hommes vinrent avec un camion. Les jeunes taureaux remarquèrent très vite que rien de bon n'émanait de ces hommes, que leurs pensées à leur égard n'étaient pas bonnes. Silencieusement, ils s'éloignèrent un peu. Les hommes avaient l'intention d'attraper un jeune taureau. Ils n'eurent aucune difficulté à le faire, car Carambo, le frère de tout amour, fermement décidé à mettre à l'épreuve son courage, sa bravoure et sa force, entra de lui-même dans le camion. Il avait toujours été un fils obéissant à son père, qu'il admirait beaucoup. Il salua sa famille avec la ferme conviction de revenir bientôt en héros. Carambo fut donc placé à l'école des hommes qui le préparèrent au combat. Et ce qu'il subit fut horrible. Ils le battirent et le fouettèrent, le piquèrent avec des objets pointus. Des hommes criaient et l'excitaient pour le rendre toujours plus agressif. En ressentant la douleur infligée par le fouet, il se demanda « Est-ce vraiment le sens de ma vie de taureau ?» Il s'intériorisa et se dit à lui-même « C'est ce qui correspond à la nature des hommes. Moi, je ne suis pas comme cela. Je ne veux pas rester ici. » Il s'adressa au grand esprit en lui. Petit à petit, je commence à croire ce que mon frère aîné, le taureau tout amour, enseigne. Si tu me comprends, tu m'aideras à m'évader de cette prison, n'est-ce pas ? Peu de temps après, son gardien s'approcha. Il était très en colère parce qu'il s'était disputé avec un autre gardien. Il claqua la porte à grand bruit, mais emporté par sa colère et le flot de ses paroles venimeuses, il oublia de fermer celle-là complètement. Carambo ne perdit pas une minute. C'est le moment. Il poussa la porte qui s'ouvrit immédiatement et partit en courant. Il courut et courut avec une seule chose en tête, revoir la merveilleuse prairie en fleurs, sa famille et ses amis. Quelques jours plus tard, il arriva totalement épuisé, là où vivait sa famille. Tous l'accueillirent en héros, car en voyant qu'il n'était pas blessé, ils croyaient qu'il avait vaincu dans l'arène. Tout comme l'avait fait le père de la famille, sois confiant, par le passé. Il se pressait autour de lui en lui demandant « Alors, comment était-ce ?» Cependant, Carambo, que son genou faisait toujours souffrir, calma leur ardeur et, fatigué, dit « Je me réjouis tellement d'être à nouveau parmi vous, mais je ne peux pas vous raconter quoi que ce soit maintenant. Je n'aspire qu'à dormir et à me reposer. » Ainsi, Carambo dormit une journée entière car il avait couru longtemps pour sauver sa vie. Après avoir bien dormi, il mangea et but. Puis il raconta ses horribles aventures dans la ville, chez les hommes. Après son récit, les jeunes taureaux furent rapidement d'accord. « Si les choses sont vraiment comme tu les racontes, Carambo, Nous pouvons bien nous passer d'héroïsme, de gloire ou de prestige. Nous préférons apprendre, avec l'aide de notre grand frère, à donner un véritable sens à notre vie de taureau. Et le soir, lorsque le soleil disparaissait doucement derrière les collines, il se retrouvait autour du grand tilleul qui parlait son propre langage, mais qu'il comprenait maintenant, et ensemble, il prêtait l'oreille à la multitude de sons que la vie de la journée, qui déclinait doucement, avait créé. Il percevait le calme de la nuit qui gagnait progressivement la plaine. Il ressentait la paix de l'esprit créateur et était heureux. « C'est merveilleux que nous puissions maintenant vivre en paix selon notre vie véritable », déclara le plus jeune de la famille. « Aucun d'entre nous n'a fait de mal au torero ou est devenu un grand héros, mais nous sommes quand même vainqueurs. » Les autres taureaux acquiescèrent par un grand que l'on pourrait traduire par « Oui, tu as raison, et que les choses restent ainsi ».